C'est une belle jeune femme dont le corps se tord douloureusement. Elle paraît en proie à un tourment mystérieux. Sa tête est profondément inclinée. Ses lèvres et ses paupières sont closes, et l'on pourrait croire qu'elle dort. Mais l'angoisse de ses traits révèle la dramatique contention de son esprit. Ce qui achève de surprendre, quand on la regarde, c'est qu'elle n'a pas de bras. Et l'on ne peut s'empêcher de regretter qu'une si puissante figure soit incomplète. L'on déplore les cruelles amputations qu'elle a subies.
C'est Paul Gsell qui raconte sa première impression lorsqu'il voit la méditation dans l'atelier de Rodin. Le maître lui répond « Quel reproche me faites-vous? C'est à dessein, croyez-le, que j'ai laissé ma statue dans cet état. N'avez-vous point noté, en effet, que la réflexion, quand elle est poussée très loin, suggère des arguments si plausibles qu'elle conseille l'inertie? » En 1897, cette méditation sans bras est exposée à Dresde et à Stockholm, mais elle est très mal reçue en raison de son aspect incomplet. Le poète Rilke comprend cette fragmentation volontaire de la part de l'artiste.
Nous sommes surpris de voir que les bras manquent. Rodin les éprouva dans ce cas comme quelque chose qui ne s'accordait pas avec le corps qui voulait s'envelopper en soi-même. Il en est de même des statues sans bras de Rodin. Il ne leur manque rien de nécessaire. On est devant elles comme devant un tout, achevé, et qui n'admet aucun complément.
Les trois méditations présentes ici sont un bel exemple du travail de création de Rodin qui conçoit, reprend, agrandit et fragmente une figure. Créée d'abord pour la porte, elle devient ensuite une muse inspiratrice dans le monument à Victor Hugo pour finalement connaître une vie propre, isolée et exposée seule.